Bulle d'Histoire, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'histoire de la vie à Genèse avec Jean-Michel Dalmas et André Grand.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour André.
Alors, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un truchement, il faut rester avec nous là.
Ah oui, mais que diable vous nous parlez ?
Oui, alors pour l'instant on ne le dit pas Jean-Michel. Si vous voulez savoir ce que font les Indiens à Versailles, restez avec nous. Si vous voulez savoir pourquoi les Indes sont galantes, faut rester avec nous. Pourquoi parle-t-on eau-de-vie à Versailles aussi?
Eh oui, eau-de-vie Rome, des Antilles.
Vous le direz après?
Peut-être.
On révèle le secret après. Et puis ainsi de suite, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, on parle de New York, on va parler aussi de Michilimackinac.
Ah oui, Michilimackinac.
Ouais, étrange, non ?
Oui. Et on va parler peut-être aussi des noms français d'Amérique.
Par exemple, Snowbot.
Eh bien oui, et on va parler peut-être aussi d'un fort qui s'appelle Détroit.
Allez, on écoute tout ça.
C'est extraordinaire.
Michel, on revient bien sûr à l'histoire d'Antoine Lomé.
Ah oui, la mode Cadillac.
Voilà.
L'officier des armées royales qui est dans la Nouvelle-France. Eh bien, dans cette Nouvelle-France, où il y a d'un côté les Français qui sont venus, les Anglais qui sont aussi venus, mais il y a aussi toutes sortes de tribus amérindiennes.
Qui étaient là.
Des indigènes qui remontent à la nuit du temps. Et quand les premiers Français sont arrivés, en fait, ce sont les pêcheurs, soit de Dieppe, soit les Basques, qui venaient pêcher la morue à Terre-Neuve, et qui faisaient chasser la morue sur les rochers à l'air du vent marin, eh bien, les Amérindiens venaient sur la côte leur faire des signes, leur dire bonjour, mais ils ne se parlaient pas, parce que par signes, ils n'avaient pas le même langage. Alors, dès le début, que ce soit Cartier ou Champlain, nos premiers explorateurs français dans la Nouvelle-France, ont eu l'idée, vieille comme le monde aussi, de laisser des jeunes mousses hiverner dans les tribus amérindiennes,
oui.
En contrepartie de quoi le chef indien, généralement, prêtait un de ses fils,
oui.
Ou un de ses proches neveux, aux Français qui l'amenaient à Versailles. Si bien que d'un côté, on apprenait l'amérindien dans la tribu, et de l'autre côté, on apprenait le français à Versailles et on découvrait la France. Alors tout ça, c'était pour apprendre le langage, parce que l'année suivante, quand on revenait, l'un comme l'autre parlait, et le français ou l'amérindien. Alors on parlait le Huron...
Et ça montre, Jean-Michel, ça montre aussi un peu comment les Français envisagent la colonisation, entre guillemets.
La relation avec les hommes a toujours été, de la part de la France, à contrario de ce que l'on peut dire aujourd'hui, a été toujours exemplaire, et bien plus exemplaire que celle des Anglais ou des autres pays comme le Portugal, ou voire même certains autres pays qui ont découvert d'autres régions. Ceci étant dit, quand Louis XV reçoit ces truchements amérindiens à Versailles, c'est extraordinaire. On les fait participer à des chasses aux lièvres, eux qui aiment beaucoup la chasse par nature. Et on leur offre des cadeaux. Alors on leur offre des chaînes en or, on leur offre des épées. On leur offre même des tableaux où ils sont représentés au milieu de la cour et ils repartent avec un tableau. Mais pour des princesses indiennes qui sont venues, on lit qu'on leur offert une montre à répétition, c'est-à-dire une montre qui sonnait les heures.
Oui.
Et alors là, les Amérindiens disent que ça, c'est une montre qui a un esprit, parce que tic-tac, tic-tac, c'est un esprit. Ils ne comprennent pas que ce mécanisme se remonte. Mais ce n'est pas tout, André. C'est que les musiciens, devant ces fêtes que l'on faisait de recevoir ces Amérindiens, eh bien, ont écrit des musiques. Et c'est comme ça que Jean-Philippe Rameau a écrit les Indes galantes. Ces Indes, c'est les Indes occidentales, les Indes d'Amérique, et non pas les Indes orientales de l'Inde. Et donc, il a écrit d'abord une petite pièce pour clavecin, les Indes galantes, dont il a tiré un opéra, une fort belle musique, qui nous sert d'ailleurs de générique à notre émission sur la mode Cadillac.
Alors, et ces Indes galantes... Pourquoi le galante, Jean-Michel ?
Ben, galante, parce que dans un opéra, ben, on raconte toujours une idylle entre une princesse indienne...
Donc, il met de l'amour.
Et il met de l'amour dans l'histoire. Mais une histoire sans amour, c'est pas une histoire, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que toutes les histoires sont des histoires d'amour. C'est bien connu aussi. Donc, voilà comment les relations se passent entre les uns et les autres. Et là, notre officier, la mode Cadillac, fait de même. Et en faisant de même, il se trouve dans la situation où il est avec les coureurs des bois. Les coureurs de bois ne sont jamais que les enfants des truchements. Parce que quand on a pris la langue et qu'on est jeune et qu'on grandit un peu, eh bien on court les bois, puisqu'on parle le langage avec les Amérindiens qu'on a connus dans les tribus, et on va continuer à faire le trafic de la pelleterie, des peaux. Mais ces coureurs des bois vont courir loin, et vont être probablement les premiers découvreurs de l'Amérique. L'Amérique était d'abord française, avant d'être anglaise ou d'être espagnole, puisqu'on a découvert jusqu'à la Louisiane, on a découvert jusqu'aux Rocheuses, mais ça, on le rencontrera plus tard. Et donc, les Anglais qui font la guerre aux Français, et qui sont concurrents sur le marché de la pelleterie, donnent beaucoup d'eau de vie avec le rhum des Antilles, qui font venir de leurs îles Caraïbes, aux sauvages, le sauvage étant le nom, non péjoratif qu'on employait à l'époque. Alors, il leur donne ça pour faire le troc, en disant « je vous donne de l'eau de vie, puis vous me donnez de la pelleterie ». Et les jésuites s'opposent fortement à ce que l'on donne de l'eau de vie aux Amérindiens, parce que ça leur tournait la tête, ils se saoulaient, ils faisaient quelques exactions désagréables.
Ce sont des addictions, d'une certaine manière.
Bien entendu. Mais la mode Cadillac, en tant qu'officier, et qui est pragmatique, dit « mais écoutez, si vous ne donnez pas, nous aussi, de l'eau de vie aux Amérindiens, nos tribus qui sont pour la France vont partir chez les Anglais, puisqu'ils auront de l'eau de vie et on leur prendra la pelleterie. Et nous, on perdra le marché de la pelleterie. »
Michel Cadillac s'oppose aux jésuites.
Ben oui.
Question d'eau de vie.
Eh ben oui, mais en fait, le gouverneur Frontenac, qui tient quand même Cadillac pour un homme dont il a besoin dans ses affaires du pays, lui dit « on ne peut pas s'opposer au pouvoir des jésuites ». Et il l'envoie faire une mission sur les côtes qui descendent depuis la baie du Saint-Laurent, l'Acadie, jusqu'à New York. il va faire une reconnaissance de ses côtes pour établir une carte où on va dessiner toutes les criques, tous les rochers, les hauts fonds, etc.
Ouais, ça, c'est toujours le mystère pour l'époque, bien sûr. Oui. Comment fait-on une carte quand on... Oui.
Il faut suivre, il faut relever, il faut faire des dessins, il faut prendre des mesures, enfin, etc. C'est très long. Et donc, Cadillac part sur un bateau qui s'appelle l'Envieux, avec un capitaine de ce bateau, et il va... Faire finalement la découverte et le dessin de toutes ces côtes. Et en revenant, il en fait trois mémoires. Un sur l'Acadie, deux sur la Nouvelle-Angleterre, la côte de l'Acadie, la côte de Nouvelle-Angleterre. Et il brosse un plan d'attaque pour détruire New York. Ils vont jusqu'à New York dans l'idée de détruire New York qui est aux Anglais. Et donc, à ce moment-là, le gouverneur envoie Cadillac à Versailles pour convaincre le ministère de la Marine, sur la base de ses mémoires, de voir ce qu'il a lieu de faire. Alors il va à Versailles, il est reçu par le roi, après avoir été reçu par le ministre de la Marine et des colonies, et il dit au roi tout ce qu'il a à dire à propos du Canada. Parce que on ne s'occupe pas beaucoup à Versailles du Canada. Et quand on demande 100 marins, on en reçoit 30. Quand on demande 200 soldats, on en reçoit 50.
Ça coûte beaucoup d'argent et on n'en a pas.
Et c'est loin et finalement, on s'en occupe peu. Mais Frontenac, qui est un gouverneur malin, savait la conviction et la facilité de parole de Cadillac. Et il comptait beaucoup sur... son esprit pour convaincre le roi et les ministères et les affaires pour bien redresser l'image et avoir plus de moyens pour la Nouvelle-France. Ben, ça n'a pas manqué, parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et il dit tout de go au roi, écoutez, « Sire, le monde peut tourner autour de son axe durant toute une éternité, mais le Canada ne peut pas devenir une France qu'un désert ou un jardin. » Et il rajoute, « Sire, il faut agir pour ce monde nouveau qui est différent de l'ancien. » Alors, il développe tous les besoins qu'il y aurait, les richesses qu'on a et l'intérêt que l'on a à défendre l'économie de la Nouvelle-France. Et donc Frontenac sait qu'il ne divisera pas sa parole et qu'il sera éloquent, persuasif et tenace. Et il dit au roi, « Sire, les Anglais sont 5 fois... plus nombreux que nous, comment voulez-vous que nous gardions un si grand pays dans l'intérêt de votre royaume ? » Eh bien, finalement, il a convaincu Louis XIV de toutes ses explications, et on l'imagine, un genou en terre, le chapeau posé sur un tabouret devant le trône de Louis XIV, en train de faire sa harangue et convaincre le roi de l'intérêt de donner des moyens supplémentaires à la Nouvelle-France. Mais comme il y est, il rappelle qu'il a été envahi des Anglais dans sa propriété qu'il avait en Acadie, qu'on lui a tout ruiné, sa maison et ses terres, et qu'il aimerait bien avoir un peu d'avancement, et puis que s'il y a un commandement à prendre, il en serait bien heureux. Ben, ça tombe bien, le roi est convaincu et trouve cet officier brillant. Finalement, en rentrant au niveau... de son retour à la Nouvelle-France, en 1693, on le nomme capitaine et il reçoit le diplôme de garde de marine, enseigne de vaisseau, et on lui alloue 1500 livres pour les dédommagements des choses qu'il avait perdues en Acadie. Et pour couronner le tout, satisfait qu'est Versailles de ses mémoires rendues par... Cadillac, eh bien, on lui donne le commandement du fort de Michilimackinac. Alors, ce Michilimackinac est un fort très important, car il est au carrefour des grands lacs supérieurs, Huron et Erier. C'est un fort qui est très important. Il est au carrefour des grands lacs, et il tient tout le pays d'en haut. Et donc là, dans
on,
ce fort...
On peut rappeler, Jean-Michel, ce qu'est un fort à l'époque.
Ben oui, un fort, ce n'est pas qu'un fort militaire. Il y a aussi un village, il y a aussi...
Des villages indiens,
des
souvent.
Villages amérindiens autour, à l'intérieur. C'est un lieu de commerce, c'est un lieu de, d'échange très important. Et comme on est en haut du pays, du côté du lac Huron, du Michigan et du lac supérieur, ce fort est capital dans le commerce...
Pour la surveillance aussi, d'une
certaine voilà, dans
manière.
Le commerce de la fourrure, et empêche les Anglais de trop descendre vers le sud. Mais on apprend peu de temps après que la paix qui a été signée entre l'Angleterre et le royaume de France, qui était en guerre, Louis XIV a fait la guerre sur la Hollande, les Pays-Bas et une grande partie du nord de l'Europe, eh bien une paix est signée avec les Anglais, la paix de Ryswick, dans laquelle, entre autres, il est question que le fort de Michilimickinac soit abandonné. Abandonné parce que les Anglais ont négocié cet abandon. Alors, je ne vous fais pas un dessin de l'émotion que crée l'annonce de, cet abandon. Parce que ça veut dire que si on abandonne ce fort, eh bien, les Anglais vont continuer à avancer, descendre de la baie d'Hudson vers les Grands Lacs.
Du côté anglais, c'était le but de l'opération.
C'était fait pour. L'eau de vie avec, tout ça est une affaire qui est bien orchestrée. Eh bien, là, il faut noter que la mode Cadillac est un garçon brillant. Brillant, il est aventurier, il est quelquefois un peu trafiquant, mais ça, qui ne le serait pas, dans les conditions dans lesquelles se trouve si loin du pays, avec peu de moyens. Eh bien, il a une idée. Il dit « Je vais revenir à Montréal et à Québec, auprès du gouverneur, avec tous les chefs des tribus indiennes. » Parce que les chefs des tribus indiennes, qui sont amis de la France, ne comprennent pas pourquoi il ne faut plus rester au fort de Michilimickinac. Et donc, il vient avec eux, et ils viennent plaider en disant « Mais si vous abandonnez ce fort, nous, on ne pourra plus faire le commerce, et nous, les Anglais, vont nous prendre. »
Abandonner Michilimackinac, oui. Mais après, bien sûr, il faudrait peut-être trouver la parade, là.
Eh bien, c'est là où il a cette idée avec ses chefs amérindiens qu'il a amenés à Montréal et à Québec, c'est de dire, si on abandonne le fort d'en haut, on pourrait faire un fort d'en bas. Et c'est là où il propose de faire un nouveau fort à Détroit, c'est-à-dire juste en un peu plus bas.
C'est-à-dire de contrôler moins le nord et de s'occuper du sud.
Voilà. C'est-à-dire, au bout du lac Erie, il va contrôler le sud, la vallée de l'Ohio, et permettre de mieux défendre la vallée du Mississippi qui amène à la Louisiane. Alors, les chefs indiens sont contents de cette idée, parce qu'ils disent qu'on passe d'un fort à un autre, nous, ça ne fait rien, pourvu qu'il y ait un fort pour faire le commerce, nos affaires continueront à aller, même si on doit aller un peu se déplacer plus au sud. Et donc, voilà cette affaire qui est réglée. Mais ce qu'il faut observer, André, c'est que tous ces coureurs de bois qui vont courir, et qui sont des anciens truchements qui parlaient le français ou l'amérindien. Et donc ces coureurs de bois français ont probablement, ce qu'on disait tout à l'heure, découvert l'Amérique avant que l'Amérique soit connue.
Oui.
Mais on n'en faisait pas publicité. Et alors là, ces coureurs de bois, il faut rappeler qu'il y a Étienne Brûlé, Radisson, Pierre Esprit, il y a Perrault Nicolas, Charbonneau, Jean-Baptiste et d'autres qui ont couru les bois, qui ont fait le marché et qui sont allés jusque dans les grandes plaines, au fond des Rocheuses, et probablement peut-être même découvrir le Pacifique avant qu'on, qu'on ne le dise. Alors on a là quelques témoignages qui ne sont pas discutables. Ce sont les noms français qui restent en Amérique. Alors, qu'on ait des noms français à Québec, au Canada, même s'il est anglo-saxon, c'est normal, vous allez me dire. Qu'on ait des noms français en Acadie, qu'on ait des noms français en Louisiane, des patronymes ou des lieux-dits, c'est normal aussi. Oui. Mais qu'on retrouve au fin fond de l'Amérique profonde, dans le Dakota du Sud,
oui,
des noms français, des noms de famille. Alors écoutez.
On peut en citer, oui.
Mais oui, alors on va parler par exemple de la famille Archambault, Bissonnette, Bourneau, Boucher. D'ailleurs, Bissonnette, je rappelle que c'est un des prénoms du président des États-Unis actuel. Cotier, Dubré, Douville, Garneau, Landau, Laplante, Lebeau, Ménard, Trudel, Robideau, Poirier. Alors on dit, mais là, vous êtes en train de lire l'annuaire du Québec. Pas du tout. C'est celui du Dakota du Sud. Eh bien, tous ces noms de famille, c'est des noms de famille françaises qui sont venus soit de la Nouvelle-France et qui ont, sont installés. Mais ce n'est pas tout. C'est quand on regarde le nom autour des Grandes Plaines, le grand pays des Sioux, au pied des Rocheuses. Eh bien, on regarde le nom des lieux-dits ou des rivières. Et alors là, on regarde Bruguière, qui est devenu Béouer, Deloria, qui est Delor, Boucher, qui est devenu Bouche, Auclair, qui est devenu Auclair, Bilodeau, qui est devenu Bilot, Carter, qui vient de Cartier, Snow, qui vient d'Arsenault, et Sun, de Bon Soleil, et Ready, de Paré. On est Paré, on est Ready, comme on dit, Ready en anglais. Et le Trudeau, ça vous parle, le Trudeau, eh bien c'est Waterhole. Donc on a des anglais, des mots anglais qui ont été transformés du français, mais au départ. Et le nom français le moins connu d'un des plus célèbres personnages de l'histoire de l'Amérique, c'est Davy Crockett. Davy Crockett, qui est le héros du fort de l'Alamo, qui...
Un trappeur.
Voilà, eh bien c'est un coureur des bois. Et Davy Crockett s'appelle ni plus ni moins David de Croquetagne, qui est un descendant des Huguenots normands qui étaient en Nouvelle-France. Alors vous voyez, et même l'État du Minnesota, qui a un drapeau, eh bien sur ce drapeau, il y a marqué la devise en français qui s'appelle l'étoile du Nord. Vous voyez qu'on parlait français. Et si on parlait français, c'est à cause de ces coureurs de bois qui sont allés galoper les campagnes et laisser des noms partout. Et alors on regarde le nom des lieux-dits, par exemple Chouteau Creek, La Bonne Femme Creek, Gasconade Rivière, Platte Rivière, L'Eau qui court, Moreau Rivière, Sweetheton, Bijou Hill, Butte Cachée, Coteau des Prairies, et le mot prairie est repris partout, puisqu'un des plus grands romans américains qui s'appelle La Prairie, c'est un nom français, ouais, de Fenimore Cooper, en 1827, et que même Hollywood a repris dans ses westerns le mot français. Ils l'ont gardé. Alors, j'en passe quelques-uns. Autour de la prairie, Côte de la prairie, Pirate de la prairie, Prairie Ban-Ban, et pour finir, le meilleur, La petite maison dans la prairie. Ben voilà, le mot français prouve bien que ces Français étaient partout.
Donc, Jean-Michel, conseil aux futurs touristes qui iraient s'aventurer par là. Regardez ces mots, faites d'une certaine manière, essayez de reconquérir cette langue qui existe toujours là-bas.
Eh bien, c'est ce qu'on appelle la francophonie. Et cette francophonie, elle vient de l'histoire de l'Amérique, de l'histoire de ses coureurs de bois, de l'histoire de ses truchements, de l'histoire de la Nouvelle-France. Et la Nouvelle-France n'est pas que arrêtée à Québec et à Montréal, mais elle est partout. Elle est partout puisque ces coureurs de bois, ces Français libres, sont allés courir partout et découvrir toutes les régions à découvrir avec les Amérindiens. Ben voilà l'histoire qui fait que la mode Cadillac, dans cet univers immense que sont les États-Unis, autant vers les Rocheuses, vers l'ouest, autant vers le sud, vers la Louisiane, en descendant le Mississippi, et on sait qu'il ira dans la Louisiane, eh bien, il va créer le fort de Détroit. Et le fort de Détroit, c'est une histoire incroyable, parce que c'est La Motte Cadillac qui va créer ce fort de toutes pièces.
Oui.
en accord avec son gouverneur.
C'est loin de l'autre fort ?
Ah oui, en kilomètres, ça fait quand même beaucoup. Ça fait à peu près toute la longueur du lac Michigan. Et le lac Michigan, quand vous le traversez du nord au sud, on a l'impression de traverser la mer, tellement c'est grand. Alors je ne sais pas, il doit y avoir au moins à peu près 1000 km, hein, 700 à 800 km environ à l'œil, comme ça sur la carte. Hein. Donc, mais ça veut dire que ce fort, qui va bloquer le sud, va bloquer les Anglais au nord et fixer les Amérindiens autour du fort comme d'habitude. Eh bien de ce fort, ils vont faire une colonie. Et de cette colonie, il y aura des artisans qui vont venir, il va installer des magasins, il va installer une église, il va y avoir un hôpital, et petit à petit, la population va venir s'installer. Et même Madame La Motte Cadillac va venir avec ses enfants, avec d'autres personnes habiter le fort, de telle manière que l'on puisse vivre en bonne intelligence.
Il installe une nouvelle capitale.
Il installe une colonie autour de ce fort. Eh bien, ce fort va ni plus ni moins devenir la ville de Détroit, qui est une des plus grandes villes.
Qui était, oui.
Qui était et qui a été frappée par les difficultés économiques que l'on sait et qui maintenant se redresse d'une meilleure manière. Mais tout ça, c'est La Motte Cadillac qui, au départ, a cette idée de dire « puisqu'on perd ce fort en haut, on va faire un fort en bas ». Et ce fort en bas va devenir une des plus grandes villes américaines. Et pas que, puisqu'on sait que Détroit est une des capitales de l'industrie automobile américaine et que General Motors a créé, je vous le donne en mille, monsieur André, qu'est-ce qu'il a créé comme marque de véhicule ? Un véhicule un peu de luxe, un véhicule prestigieux, eh bien, il a créé la marque Cadillac. Eh bien, c'est La Motte Cadillac qui a donné, mais ça, on racontera ça une autre fois, bien entendu, André. On le garde le meilleur pour la fin.
Merci beaucoup, Jean-Michel.
À bientôt, André, merci.
À bientôt.
C'était Bulle d'Histoire, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'histoire de la vie à Genèse avec Jean-Michel Dalmas et André Crampon.